Bonjour et bienvenue sur Tropic FM dans cette nouvelle émission de Résonance. L'équipe de Résonance et moi-même sommes très heureux de vous retrouver après cette interruption estivale avec un désir toujours aussi fort de partager avec vous une parole incarnée et responsable qui engage celui qui la prononce comme celui qui l'écoute. Résonance vous invite, au cours de cette nouvelle saison, à partir à la découverte de ces territoires, de ces acteurs qui, au quotidien, travaillent, inventent, initient des projets artistiques à partir de cette question. Comment la création, sous toutes ses formes, peut-elle être le moteur de la rencontre, du faire ensemble, du vivre ensemble ? Résonance vous propose d'être au plus proche de cette création qui vit, qui émerge, de l'art qu'on pratique et qui nous redonne une place, qui nous permet de nous sentir à nouveau et toujours vivants. À travers d'un réseau de correspondants réguliers, Résonance a choisi d'associer un certain nombre d'acteurs qui portent des initiatives, des projets forts en région, hors région et à l'étranger. Résonance s'entoure d'une équipe, d'une vingtaine de correspondants réguliers. Ceux-ci présentent un sujet, une réflexion, une action, une initiative, de manière dialogique avec l'équipe de l'émission. On vous tient au plus proche de ce qu'il se passe sur le terrain en parcourant également les routes en région. À partir de cette rentrée 2013, l'émission Résonance partira régulièrement sur les routes de la région pour aller à la rencontre, à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques pour d'une part mieux en parler et d'autre part pour confier la parole aux porteurs de ces initiatives. Résonance se rendra au cours de sa prochaine saison radiophonique au sein de différents établissements d'enseignement spécialisés de la région afin de réaliser un ensemble de cartes postales vivantes de la situation en Rhône-Alpes sur l'accès des personnes en situation de handicap dans ces établissements. Et puis, à l'écoute de l'actualité du terrain, Résonance contribue à la circulation de l'information et à mettre celle-ci à la disposition de tous grâce à la présente émission. En invitant à l'antenne au sein du studio ou par téléphone les porteurs de ces actions, en choisissant de réaliser une émission spéciale à partir de cette action, de cet événement. Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, ce mardi 10 septembre, je suis accompagné par Simon Deborne à la technique. Thank you. Voilà, c'était le nouveau quartet, l'un des ensembles du collectif La Forge situé à Grenoble. Et là, nous avions particulièrement Pierre Baldi au trombone, Yves Gerbelot au saxophone, Michel Mandel au clarinette, Pascal Berne tuba. Les écritures, les compositions sont de Pascal Berne et c'est un des collectifs de jazz, mais aussi très 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 ouvert à toutes les musiques que nous venons d'entendre et que nous aurons le plaisir de réentendre au cours de cette émission. Tout à l'heure, je vous évoquais, chers auditeurs, notre souhait au sein de cette émission de résonance de constituer une équipe de correspondants avec lesquels, tout au long de notre saison radiophonique, nous allons converser et pouvoir aborder différentes problématiques, thématiques et réflexions ou projets. Eh bien, aujourd'hui, notre émission va nous permettre justement d'accueillir à l'antenne deux de ces invités et nous allons accueillir maintenant à Chambéry, dans les Savoies, Anne-Marie Chapsal. Anne-Marie, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de t'accueillir dans cette émission et puis pour essayer bien ensemble de pouvoir aborder deux trois petites choses sur lesquelles je sais que tu travailles aussi beaucoup. Alors tu agis sur le territoire de la Savoie, tu es chef de chœur, formatrice, tu travailles également en lien très étroit avec une structure départementale qu'est Diapason 73 qui œuvre notamment pour favoriser l'accès des pratiques artistiques aussi à tout le monde. Je disais chef de chœur, mais en même temps aussi tu chantes dans un ensemble qui s'appelle 2021, dirigé par Cyril Colombier, très tourné vers les musiques d'aujourd'hui. Voilà toute une palette d'activités passionnantes. Et je trouve que justement, ta posture te fait voyager justement en permanence entre différents publics, mais que c'est la voix, le chant qui ouvre aussi ses frontières et crée ses porosités. Qu'en penses-tu?
Oui, c'est... Lorsque j'entends le récit de ma vie à travers tes propos, je me dis, mon Dieu, que peut-on dire de tout ça, si ce n'est ce catalogue? Mais ce qui a toujours guidé mes choix et mes motivations professionnelles, c'était l'absolue conviction que la musique, aide à mieux être, à mieux grandir, à mieux vivre. Voilà, c'est un plus. C'est pas absolument indispensable, mais ça fait partie des éléments essentiels quand quand il y a justement quelque chose qui dysfonctionne dans notre vie. Et de tout temps, j'ai à la fois animé, formé, pratiqué, recherché, enseigné, parce qu'il me semblait que tout ça, c'était essentiel.
C'est
et
essentiel.
Tout ça, ça tourne autour de la personne.
Mais complètement. Et là, on voit bien que c'est ça qui est au cœur un petit peu de ta pratique, mais aussi, on voit bien que quand les pratiques artistiques en elles-mêmes fonctionnent, si je peux dire, c'est parce qu'elles se basent aussi sur ces fondamentaux-là, et que là, à partir de là, il se passe énormément de choses, quel que soit le public.
Oui, c'est certain. Je dirais que les publics... je suis toujours un peu perplexe. Enfin, j'ai quelques difficultés quelquefois à expliquer ou à cataloguer ces publics parce que nous avons une forte tendance à les
absolument,
séparer.
À poser ces étiquettes.
Voilà, à poser ces étiquettes, on est très fort pour ça en France. Mais
tout à fait.
En même temps, il y a des choses qui ne me conviennent pas tout à fait, ne serait-ce que parce que je crois qu'au-delà des étiquettes, il y a des individus.
Absolument.
Et des individus qui forgent des groupes. Et ces groupes, ils ont une entité en eux-mêmes.
Absolument.
Comme chacun des individus qui le composent. Et dans les pratiques que nous exerçons, les pratiques artistiques, nous nous appuyons sur cette double synergie individuelle et collective.
Et ça, je crois que c'est important. Et j'évoquais justement en introduction de cette émission et le propos de Résonance dans toute sa filiation et puis aussi dans tout son déroulé de cette nouvelle saison radiophonique vont tourner autour de cette question un peu centrale. C'est-à-dire du coup comment les pratiques artistiques et la création sous toutes ses formes peuvent être le moteur de la rencontre, du faire ensemble et du vivre ensemble.
Oui, c'est un vaste sujet.
Voilà.
Le moteur de la rencontre, oui, c'est quelque chose qui, je parle de la musique en général, mais
bien
peut-être
sûr.
de la voix en particulier, c'est quelque chose qui permet de se dire, de dire aussi quelque chose que l'on ne connaît pas de soi à travers d'autres qui ont posé des outils pour le faire, un répertoire, une musique, comme celle qu'on vient d'entendre juste avant cet entretien, qui nous fait gigoter les pieds, qui
Tout
nous réveille quelque chose, qui réveille quelque chose en nous que nous ignorons peut-être, mais en tout cas qui existe bel et bien là. Et cette phase de soi, c'est quelque chose qui peut apparaître au moment d'une pratique. Le moteur, qu'il soit dans le cadre d'une pratique ou à travers un répertoire déjà défini ou à travers une création, c'est quelque chose qui est très important. On est dans une société quand même qui valorise à la fois l'autonomie, je parle au niveau du système éducatif, l'autonomie, mais qui ne donne pas beaucoup dans le cursus scolaire, qui ne fait pas beaucoup place à la création.
À la création.
Voilà. Et en fait, l'un va pas sans l'autre.
Complètement.
Et si on veut s'affranchir de diktats, alors il faut aller vers ce que les textes officiels nous imposent de faire, qui est la construction du libre arbitre. Je pense au milieu scolaire, où la construction du libre arbitre est quelque chose de magnifique en soi. Encore faut-il le cultiver à travers toutes les matières.
C'est ça. Et là, c'est vrai que c'est toute une difficulté à faire qu'effectivement, au cœur de toutes ces matières, on ait cette présence d'esprit et qu'on agisse en ce sens.
Et quand lorsqu'on est adulte, on retrouve ça aussi.
Oui.
Oser faire, oser se constituer son libre arbitre, ne pas écouter les diktats, mais écouter plusieurs choses pour se faire son propre avis, se découvrir, aimer certaines choses, se découvrir ne pas aimer d'autres choses aussi.
Aussi. Complètement.
Et dans le cadre du secteur handicap, alors là, on est vraiment dans la découverte ou la redécouverte d'une partie de soi qui est défaillante. C'est ce qui se passe avec le public des personnes porteuses de handicap.
Alors si, effectivement, et tu l'évoquais un petit peu, on se rapproche aussi du côté vocal, et tout en continuant un petit peu ce que nous venons de dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire que veut dire exactement ce savoir chanter ou par exemple faire taire la dissonance ou quel est exactement ce savoir ou plutôt que signifie-t-il ou que sait-on au juste en sachant chanter.
Ouh là là, ça c'est des vastes
questions.
Questions, oui.
Mais oui, finalement, qu'est-ce que c'est que ce savoir chanter, finalement? Alors, c'est vrai que ça joue déjà sur ce que l'on vient de dire un peu, hein, et ça part aussi de, c'est une expression, ça permet de faire entendre aussi, voilà, quelque chose qui vient de chacun, et en même temps, il y a différentes manières de le faire entendre, effectivement.
Oui, alors, je vais te parler d'un public que je fréquente aussi, c'est la toute petite enfance. Et je te donnerai un exemple. Je me souviens d'un tout petit enfant qui devait avoir juste un an à peu près et qui était debout, tout chancelant et ravi d'être debout, il a émis un cri. Et ce cri l'a fait tomber. Et il a été interloqué, non pas parce qu'il était tombé, mais parce qu'il avait crié et qu'il avait entendu subitement que c'était lui qui produisait ce son-là. Il était interloqué. Alors quand tu me poses la question, qu'est-ce que c'est que chanter? Chanter, c'est quelque chose qui nous vient depuis la naissance, hein, la voix, le son, le bruit, la voix, c'est vraiment ce qui dit qu'on est vivant.
Complètement.
Et ça ne s'éteindra qu'à notre mort, sauf cas très particulier. Et cette voix, elle va passer par plusieurs stades. Et je crois qu'elle devient chant lorsque elle est empreinte de symbolique et lorsqu'elle est conscientisée vers quelque chose qui est imprégné de poésie ou d'esthétique d'une manière très large, enfin sans connotation particulière. Moi, je
C'est
dirais
ça,
plus de poétique,
de
voilà.
poétique.
Oui.
Ce qui du coup peut faire aussi, après on pourrait aller plus loin, mais qu'est-ce que veut dire quand j'évoquais finalement la dissonance, c'est-à-dire est-ce que voilà comment on regarde le chanter? On dit souvent quand quelqu'un qui se trouve même quelquefois dans un repas de famille, oh ben non, moi je veux pas chanter parce que je chante faux.
Oui.
Alors qu'est-ce que voudrait dire effectivement? C'est là je fais un peu le rapport aussi au mot dissonance aussi également.
Oui.
Quand on n'est pas dans la consonance habituelle de ce qu'on serait l'expression vocale, mais que justement on est, bah, on chante pas forcément juste, mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas chanter juste? Et du coup, qu'est-ce que c'est que qu'une norme vocale? Parce que là aussi, il y a des normes aussi qui sont là et qui font que du coup, des expressions ou des manières d'utiliser sa voix, de dire finalement, sont différentes que peut-être d'autres manières de faire. Il y a aussi toutes ces choses, je trouve aussi, qui se trouvent au cœur
Oui,
de ça.
la dissonance est une affaire très tactile, je dirais. La dissonance est quelque chose qui nous appartient et
Qui nous
qui
est
fait partie de
propre.
notre histoire. Je me souviens très bien, moi qui suis une très piètre pianiste, d'avoir affectionné. J'ai découvert la seconde majeure, Do, Ré, ces deux sons-là. Et j'ai découvert qu'il y avait plein de musique. J'étais petite, hein, je te parle, j'avais 5 ans.
Ah oui, alors effectivement.
Et j'étais vraiment petite. Et je jouais ces deux notes-là, de deux notes contiguës, mais avec un délice incroyable. Je crois que j'aurais pu m'y noyer. J'avais cette
C'est ça.
sensation-là d'être complètement à l'intérieur du son. Et ça, je me souviens que ça m'avait duré longtemps. Jouer ces deux notes-là contiguës, il y avait quelque chose de très tactile. C'est au niveau de la peau que ça se passe.
Oui, c'est ça.
Et après, moi, je peux concevoir qu'il y ait, pour d'autres personnes, un dégoût de ces notes-là ou
Bien
quelque
sûr.
chose qui est une répulsion
Une répulsion.
pour ce même accord, quelque chose qui ne serait pas audible. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on touche du tissu. Il y en a certains qui aiment le satin et d'autres qui ne supportent pas le toucher. Bon, ben voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Je dirais que d'une manière générale, et là intervient l'éducation, plus on écoute de choses petites, plus on a de chances d'aimer. C'est comme la nourriture, plus on goûte et meilleur on trouve
Et
les
mieux on
choses.
trouve les
Voilà.
choses.
Parce qu'on a une palette de possibles, une palette d'expériences. Très grande.
Alors peut-être pour, vu que là on parlait de la voix et justement de l'entendre dans toute sa petite diversité, je te propose, c'est un très court extrait, mais c'est une petite pièce qui s'appelle, un petit extrait qui s'appelle Kekak et qui est un extrait d'un chant balinais. Voilà, c'est vraiment 57 secondes, mais 57 secondes assez sympathiques.
Ah, avec plaisir. Ta 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 ta
Voilà l'extrait que nous venons d'entendre, Kekak, un chant chant balinais, mais là aussi on sent toutes ces énergies en étant des couleurs très différentes qui se superposent, qui se rencontrent, quand on disait tout à l'heure faire ensemble,
oui.
Hein, et on sent bien sûr là il y a des manières de faire, il y a des manières d'agencer, hein, différentes aussi de nous, mais tout ça prend place quoi et coexiste, et
oui.
On sent que c'est dans une même enfin il y a le même sens, il y a une grande vitalité en tout cas.
Une grande vitalité, puis beaucoup, beaucoup d'incarnation. Enfin, on sent
oui.
que le corps est très prégnant.
Complètement.
On entend les souffles.
Oui.
On a vraiment cette une matière très organique dans la musique, et on l'oreille du coup cherche un peu ce qui nous correspond, ou au contraire ce qui interpelle. On se surprend à chercher les différents plans. Oui, c'est comme un jeu de piste. Oui, c'est
complètement.
Formidable.
Complètement. Mmh. Du coup, je me dis aussi jeu de piste. Alors, je fais aussi état d'un travail aussi que tu mènes, par exemple, au CHS de Bassens, et là où tu animes un chœur avec des patients et aussi des soignants. Quelquefois, on va retrouver aussi, par rapport à cet extrait qu'on vient d'entendre, voilà, des choses comme ça, très différentes, qui peuvent paraître un peu hétérogènes, mais qui vont trouver petit à petit aussi une incarnation là aussi également, parce qu'elles sont portées aussi de manière très très forte par les personnes qui sont là. Et il y a un peu des apparentés, je dirais, aussi par rapport à ce genre de choses.
Oui, il y a des apparentés, et je pense que écouter ce genre de choses permet d'être plus sensible à ce qui peut arriver de façon plus fortuite ou en lien avec la maladie, qui fait que l'expression orale des patients prend quelquefois une tournure un petit peu... Alors, on oublie pour le coup complètement la poésie et le...
Oui.
Voilà, on le prend comme un vecteur de la maladie. Et cependant, quand on le met sous cadre, c'est-à-dire quand on l'entoure par l'activité elle-même, qui comprend un lieu, un temps donné, à ce moment-là, ça peut trouver une place et ça peut se voir et s'entendre différemment.
Mmh.
C'est je dirais que c'est ce qui fait la richesse de ce groupe qui allie patients et soignants, c'est que pour les soignants, c'est l'occasion de voir autrement les patients et d'entendre autrement. Ces sons qui les interpellent, qui les agacent, ces sons répétitifs pour la plupart d'entre eux. Et lorsqu'ils sont mis dans un autre contexte, ou quand on met un cadre, encore une fois, autour d'eux, je pense au cadre du tableau,
oui.
C'est vraiment ça, ça permet d'avoir un autre regard sur tout ça.
Et ça, je crois que c'est effectivement important. Alors, est-ce que des fois, peut-on dire que chantant devant les autres, je chante quelque chose aux autres ?
Oui,
est-ce qu'on peut...
On peut dire ça. Alors après, je ne saurais dire ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire.
Tout à fait.
En tout cas, il est évident qu'on passe... que la chanter pour soi et chanter aux autres, c'est une frontière sur laquelle on navigue sans arrêt.
Tout à fait.
Et je crois qu'on peut essayer de sortir d'une pensée narcissique de la parole ou du chant pour aller vers quelque chose qui relève plus du partage et de l'empathie. Peut-être que notre activité à nous, chef de chœur ou animateur, relève de ça. Aller quitter ce narcissisme pour aller vers, ce partage.
Vers ce partage avec l'autre. Finalement, le chant, c'est comme c'est presque un chemin, finalement, hein, et qui nous emmène. Alors, on ne sait pas toujours où il nous mène, bien évidemment. Mais il y a quelque chose, du coup, qui au travers, quand les gens le font ensemble, ou que ce soit individuel, ou que de partant de cet individu, ça l'amène aussi à une quête, bon, qui lui est personnelle, mais en même temps, aller aussi chanter devant les autres. Et voilà. Et qu'est-ce que je dis devant les autres? Et qu'est-ce que ça me fait dépasser, effectivement, quand tu dis ce côté narcissique des choses? Du coup, ça met en branle quelque part. Ça met en chemin.
Ça met en chemin celui qui chante et ça met en chemin celui qui écoute. Ça met en chemin celui qui chante. C'est comme la marche. Il y a un rapport au temps.
Il y a un rapport au temps.
C'est quelque chose qui s'écoule. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un contexte. Il y a quelque chose à dire. Comme le chemin, il y a des pas à faire. Il y a un paysage qui se déroule. Mais en même temps, il y a une transformation.
Et alors du coup, je dirais, pour revenir, alors On a approfondi un petit peu voilà, certaines questions qui te sont chères, notamment autour de la voix et un peu déjà ces questions de qu'est-ce qui se passe autour de la voix. Tout à l'heure, on évoquait aussi donc des personnes en situation de handicap. Alors c'est juste aussi un petit peu parce que c'est important aussi pour nos auditeurs et puis aussi pour nourrir notre réflexion commune et puis appréhender chacun des territoires. Là, c'est la Savoie. Peut-être un regard de ta part alors, par rapport à cette collaboration que tu as régulière depuis plusieurs années avec cet organisme qui est Diapason 73 et qui œuvre bien sûr sur l'ensemble du département des Savoies. Comment tu, sans dire jauger, mais comment tu appréhendes un petit peu après toutes ces années quand même d'un gros travail de terrain dans ce territoire en direction de ces publics, gérer un petit peu la situation actuelle dans. On sait qu'il y a encore un chantier énorme, hein, on est bien d'accord, mais comment tu l'aperçois dans un territoire comme celui de la Savoie?
Bon, ça fait 18 ans que je travaille
Voilà.
pour le département. J'ai été coordonnatrice musique et danse petite enfance et formatrice pendant 13 ans. Je ne suis plus à Diapason directement, mais je suis toujours en lien avec eux. Je me disais, il y a, quand j'ai commencé, que nous avions beaucoup de chance, et nous avons toujours beaucoup de chance d'avoir cet organisme sur le département, parce que il a permis de créer des synergies entre toutes sortes de publics à travers des dispositifs qui ont été mis en place, qui rassemblaient tous ceux qui œuvrent pour la diffusion ou l'enseignement des arts. Et ça, c'est vraiment un trésor sur le département. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a travaillé pendant de nombreuses années et qui perdure et qui est vraiment une des richesses du département. Alors, on pourrait dire, bon, ben alors maintenant c'est fait, quoi. Si les
Bien
gens ont l'habitude de travailler ensemble, retirons-nous et faisons autre chose, mettons nos efforts sur autre chose. Et moi, j'aurais tendance à dire que, puisque nous sommes dans une situation où on est en train d'envisager de vivre autrement parce qu'on a vécu un petit peu un peu au-delà de nos moyens, jamais il n'a été aussi important de conserver un axe fort à la culture. C'est pas du luxe, c'est un fondamental. C'est pas du luxe parce que ça s'adresse à tout le monde et c'est un fondamental parce que il permet à chacun de ne pas être dans un consumérisme, mais au contraire dans quelque chose qui est un mode actif de citoyen. Voilà, je rapprocherai ça de la
Oui,
citoyenneté.
mais oui, ça je trouve que c'est un fondement, enfin voilà, une démocratie véritable doit être porteuse aussi de tout cela si elle veut vraiment être démocratique. Et
Oui.
ça je crois que ça me paraît essentiel. Et ça passe par la culture,
Ça passe
effectivement.
par la culture.
Ça passe aussi par cette culture. Et ça me paraît extrêmement important. Merci Anne-Marie en tout cas pour cet échange, pour ce témoignage très riche. Et puis, si tu en es d'accord, je parlais de correspondant régulier puisque c'est un peu une des nouveautés en tout cas principales de l'émission pour cette nouvelle saison et puis qui va s'installer dans la durée. Mais qu'on puisse se retrouver au cours d'une prochaine émission pour bah là on a fait un petit peu un tour d'horizon entre les pratiques, ta pratique et déjà certains regards sur un territoire, ben voilà, peut-être que ce sera autour d'un de ces sujets ou l'approfondissement d'un autre, mais ça serait avec plaisir de te retrouver prochainement dans ce cadre pour aller plus loin ensemble en tout cas.
Oh ben, ce sera avec grand plaisir et je te remercie beaucoup pour cette invitation.
Ah ben c'est moi. Et puis les auditeurs avec moi aussi, parce qu'on est là aussi pour essayer d'éveiller les curiosités et de nourrir aussi notre réflexion commune. En tout cas, à très bientôt Anne-Marie, hein. Merci beaucoup.
Merci à toi, Alain.
Au revoir.
Au revoir.
Nous écoutons à nouveau le Novo Quartet avec Pierre Baldi au trombone, Yves Gerbolo au saxophone, Michel Mandel à la clarinette, Pascal Bern au tuba et cette fois-ci dans une pièce intitulée Le Jardin volant. Résonance sur Tropic FM. Nous venons d'écouter le nouveau quartet avec Pierre Baldi, Yves Gerbolot, Michel Mandel, Pascal Berne, dans un extrait qui s'intitule Le Jardin Volant et qui était lui-même le titre de cet album concocté par ce merveilleux quartet de jazz et d'instrumentistes et qui appartient, donc qui fait partie du collectif La Forge, un collectif très inventif établi à Grenoble et qui nous emmène dans plein de directions et dans plein de projets en région et ailleurs. Alors nous étions il y a quelques instants en Savoie avec Anne-Marie Chapsal et nous continuons au cours de cette première émission de la saison à voyager justement à la rencontre de différents territoires et cette fois-ci nous nous rendons en Bourgogne et plus précisément à Dijon et je suis très heureux d'accueillir à l'antenne Alain Vasseur. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alain. En tout cas, pour situer à nos éditeurs un petit peu ce qui se passe justement à Dijon et l'intérêt de cet échange que nous allons avoir, c'est que tu es le directeur artistique d'Itinéraire Singulier, qui est une association et qui a pour objectif la démocratisation de la culture et de la création artistique comme facteur de liens sociaux et outil privilégié de lutte contre l'exclusion. On voit que là, c'est déjà un engagement fort et je me disais que peut-être on pourrait commencer par là. Qu'est-ce qui, du coup, quelles sont peut-être les raisons qui ont permis à un moment donné la naissance de cette association et qui ont été surtout la source d'un engagement aussi fort?
Ben, moi, j'aime souvent rappeler que ce qui définit, puisqu'on parle de démocratisation de la culture, ce qui définit un mouvement démocratique, c'est sa capacité à fabriquer de l'acteur, j'ai envie de dire. Alors, fabriquer l'acteur, c'est peut-être pas très très beau comme mot, mais je ne trouve pas d'autre mot. Et puis, être acteur dans notre société, ça veut dire être capable de faire des choix en connaissance de cause, et de prendre des options qui nous engagent, nous, et surtout nous, avec les autres. Et c'est aussi, bien sûr, transmettre, émettre une opinion. Et pour moi, transmettre, c'est être en vie, et c'est surtout rester vivant. L'expression, sous toutes ses formes, est une démarche pour moi, de recherche et de découverte ouverte à tous, qui n'appartient ni à l'expert, ni à l'artiste.
Elle est le propre de chaque individu.
Toute personne qui veut, j'ai envie de dire, qui veut approfondir ses rapports avec le monde. Pour moi, l'individu qui s'exprime, qu'il soit en situation de handicap ou non, est donc toujours, de quelque manière, surpris de ce qu'il rend extérieur à lui-même. En fait. C'est ce qui nous rend vivants, quoi. Le secret pour moi, c'est juste de replacer la personne dans une dynamique de projet où se croisent des sensibilités, des singularités expressives de chacun, quoi.
Voilà. Et je trouve que justement, tu avais une manière de formuler ce que tu viens de dire, notamment en disant il y a en chacun de nous, à l'intérieur de nous, une vie qui cherche à se dire et à se donner.
Exactement. Je trouve ça, c'est dit à se donner. Pour mettre en place ce projet-là.
Oui, parce que du coup, ça, c'était, les fondamentaux.
Les fondamentaux, quoi. Depuis l'origine d'Itinéraire, qui date de 1999, le festival. Donc, ce festival cherche à réunir les forces vives, alors sociales. Associatif, sanitaire, culturel, de la région Bourgogne, pour mieux faire circuler et entendre ces paroles dites en marge, en fait, et mises en forme, en voix, en lumière, en musique, par des artistes professionnels ou amateurs, on va travailler aussi avec des publics amateurs. Et puis, en 2010, un second rendez-vous a vu le jour. Parce que là, c'était une biennale d'art singulier. Donc, en 2010, on a mis en place une biennale des arts singuliers, alors consacrée cette fois-ci plus aux arts plastiques.
Aux arts plastiques.
À l'art, ce qu'on appelle l'art en marge, l'art outsider, l'art singulier, l'art brut. Et donc, ça, c'est un nouveau rendez-vous qui a eu le jour, donc les années paires. Et puis, bien sûr, on travaille sur toute la région Bourgogne. Cette année, on avait 70 partenaires sur la région et 70 rendez-vous. Quoi,
voilà, on était du 13 mars au 7 avril dernier. Voilà, c'était le festival en tant que tel. Et là, effectivement, il y avait c'était une couverture territoriale très importante, pratiquement sur l'ensemble de la région Bourgogne, pratiquement.
Ouais. Oui, parce qu'on s'intéresse surtout. On s'intéresse à toutes ces structures qui, aux quatre coins de la Bourgogne, justement,
sont acteurs, comme tu disais
tout
à l'heure.
Oui, tentent de définir en fait les conditions de lieu, d'espace, de temps et d'accompagnement, j'ai envie de dire, nécessaires à l'éclosion de cette parole-là, voilà, que l'on nomme Saguilière et qui se révèle pourtant si indispensable à notre pensée normopathique, on va dire. on lance toujours un appel à projet et on essaye de répondre donc aux nombreuses demandes de partenariat qui nous arrivent un petit peu partout.
Et celles-ci ont été, quand vous avez initié par exemple cet appel à projet, ça a été vraiment une affluence effectivement est-ce que ça s'est forgé petit à petit?
Alors le réseau se forme, alors il y a des partenaires qui sont là, qui sont sur le terrain. Depuis l'origine, qui nous accompagne depuis l'origine, et puis il y en a de nouveaux qui viennent se greffer, bien évidemment. Mais ce projet-là ne serait pas ce qu'il est, ce foisonnement, ce croisement, cette pureté des idées, des expressions, sans un certain nombre aussi d'artistes, de structures et de compagnies professionnelles, des hommes qui, des femmes qui ont fait le choix aussi de restituer. En fait, l'importance de cette parole humaine, souvent marginale ou marginalisée, dans leur création ou dans leur lieu, et qui sont souvent engagés dans un travail personnel de recherche et d'accompagnement pour faire naître, découvrir, voire entendre, enfin, je veux dire, transmettre au travers des différentes approches artistiques qu'ils ont auprès de ces publics-là. J'aime bien parler de communauté, de culture, de valeurs, de destin qui font signe et qui nous font signe, parce que je dis toujours, nos fragilités nous ressemblent et nos fragilités nous rassemblent. Voilà.
Et cette communauté de valeurs que tu nous indiques, justement, est-ce que certains, alors franchissons le pas dans le domaine culturel complètement, sur l'ensemble du territoire régional, j'imagine bien qu'à certains moments donnés, certaines de ces structures sont aussi partenaires à certains endroits, mais comment tu sens ça? Est-ce que quelquefois il y a un peu des réticences aussi ou des difficultés à faire aussi ce lien-là?
Bien évidemment, je pense que en région Rhône-Alpes, vous rencontrez la même
Il y a des similitudes.
Bien sûr. Je prends l'exemple de spectacles, d'artistes qui viennent en résidence pendant des CHS, un centre hospitalier spécialisé, un psy, ou dans des. On a travaillé aussi avec un artiste qui a travaillé sur le territoire dans les agences Solidarité Famille avec le département. On a des restitutions extraordinaires, magnifiques, qui sont proposées dans les structures culturelles. Quand on essaye de faire tourner ce spectacle-là et qu'on essaye de voir d'autres structures, on dit non, c'est trop spécialisé, ça va pas toucher notre public. Alors que les publics qui découvrent ça, mais on aimerait voir et entendre.
Complètement.
Plus souvent, et qu'est-ce que ça manque? Parce que, comme l'art brut, pourquoi ça nous touche et pourquoi ça nous bouscule? Parce que c'est quelque chose que l'on connaît quelque part.
Chacun connaît un petit peu à l'intérieur de lui-même.
C'est-à-dire que ce besoin d'expression spontanée qu'on avait, cette liberté d'expression, cette permission de tout dire et de tout faire sans avoir à passer par le tribunal du goût aussi, parce qu'en fait on est un peu prisonnier de ça. Et c'est cette prise avec aussi nos ressources enfantines, c'est-à-dire qui est là. Alors à la fois il y a la liberté de l'enfant, mais il y a aussi derrière le discours de l'adulte qui nous fait un petit peu peur, parce qu'il faut un peu tourmenter. Mais il y a quand même quelque chose c'est quelque chose que l'on connaît quand même quelque part, puisque quelque chose qui nous est un petit peu étranger. C'est Freud qui parlait d'inquiétante étrangeté, il y a une espèce d'inquiétante étrangeté. Et quand on va voir des programmateurs, il y a toujours cette idée, si on travaille la psychiatrie, de dire oui, mais attendez, il y a cette inquiétante étrangeté, c'est ce que c'est vraiment au fond de nos publics.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il y a une manière, on le voit bien de manière plus générale, en tout cas, que ce soit dans l'art en général, qui a tendance à rester à fermer sur lui-même et à ne rester que dans ce qui lui est proche ou identique. En tout cas, et comme tu as raison de le soulever, ce phénomène d'étrangeté, en tout cas, enfin, c'est une manière
manière aussi de pouvoir, entre guillemets, botter aussi en touche par rapport à ça et pas se poser plus loin de comment la création, finalement, et les pratiques artistiques au sens le plus large pourraient être, à ce moment-là, le moteur, justement, du faire ensemble et du vivre ensemble. Et que c'est ce questionnement-là et comment les lieux de diffusion se situent aussi par rapport à cette problématique-là. Mais ça rejoint le côté démocratique que tu soulevais tout à l'heure.
Tout à fait. Et je trouve que, je sais pas moi, mais la création en général, de nous inviter à réfléchir sur la fragilité, sur l'universalité, sur l'unicité, sur la diversité des personnes qui composent notre société, mais aussi sur la richesse, j'ai envie de dire presque intemporelle de nos différents regards, de nos regards différents sur le monde.
Complètement.
Et pour moi, la pluralité des expressions a plusieurs vertus. Celle surtout de nous sortir de notre petit espace-temps normopathique, comme je disais tout à l'heure.
J'aime bien.
De notre petit espace-temps normopathique. Celle de nous inscrire aussi dans un projet de vie. J'appelle ça un projet de vie qui soit souci du monde. Et puis celle d'acquérir aussi des valeurs plurielles, quoi.
Oui, et ça, ça me paraît essentiel, ça. Oui. Ces valeurs plurielles, c'est essentiel.
Et ça, c'est essentiel. Et notre souci aussi, c'est de ramener les personnes qui s'engagent dans ces projets-là dans la dynamique du nous. J'appelle ça du nous. Alors, aujourd'hui, on développe beaucoup le jeu au travers du développement personnel, mais le nous a un peu disparu. Et si, j'ai encore 2 minutes là, juste.
Ah oui, oui, nous avons encore le temps, bien sûr, sans souci, Alain.
Ah d'accord. J'aimerais rappeler un petit événement qui s'est passé. Il y a 2 ans, je crois, au festival. Il y a 2 ans, lors du festival Étienne Singuier, il y a eu des projets artistiques menés sur l'hôpital et notamment on se rendait à une exposition qui avait lieu en ville et il y avait 2 patients qui avaient participé à l'exposition et on allait au vernissage d'exposition. Et dans la voiture, j'avais emmené 2 directeurs adjoints du centre hospitalier au vernissage. Et soudain, on s'arrête un feu et il y a un patient qui montre un panneau lumineux de la manifestation. Il se tourne alors vers les interlocuteurs qui étaient derrière nous et il leur dit, vous voyez, ça c'est nous.
Ah oui.
Et pour moi, si on interroge ce nous là, livré comme ça, très très simplement.
Très simplement, oui.
On s'aperçoit vite que c'est lui qui nous fait exister, en fait. Dans une société, justement, on développe de plus en plus le jeu basé sur notre capacité à renforcer les fondements de nos compétences personnelles, techniques, professionnelles, artistiques. On est dans une société, où l'individu est entrepreneur de sa propre personne, ça c'est joli. Le nous s'inscrit dans une communauté fondamentale de la vie humaine, pour moi. Et ça me fait dire qu'il faut être quelque part de l'humanité pour être acteur, quoi. Et notre commune humanité, je parle de commune humanité, se base sur ce nous nécessaire qui interroge, ouvre, développe nos itinéraires singuliers.
Et je pense que, eh bien là, on va écouter, je pense aussi quelqu'un qui est bien dans ces dynamiques-là, en tout cas, qui se pose aussi ces questions à travers la manière dont il l'écrit ou comment il joue. Et il s'agit de Jean-Pierre Drouet dans une courte improvisation dans le cadre du festival Banlieue Bleue.
On l'écoute.
On l'écoute. C'était Jean-Pierre Drouet dans une improvisation dans le cadre de Banlieue Bleue. On sent toute cette fougue, hein, c'est justement cette vitalité. Et puis,
magnifique.
C'est magnifique aussi, hein. Complètement. Mais je trouvais que ça pouvait venir bien en écho, effectivement, à tes propos. Alors, on évoquait, bien sûr, la Biennale, tous ses fondamentaux, tous ses enjeux aussi qui sont là. Bien sûr, il y avait des résidences d'artistes. On a évoqué tout le côté aussi pictural, l'art singulier et l'art brut, mais également itinéraire singulier, ben, dans ce maillage, je dirais aussi ce tissage, ben, cherche aussi à joindre ces différents professionnels, qu'ils soient de la santé, qu'ils soient de la culture ou autre. Et il y a aussi des actions de formation, il y a aussi la constitution d'un réseau aussi également.
Tout à fait. Alors, on a, comme pour vous en région Rhône-Alpes, On a développé un réseau de partenaires assez important. Donc on est aussi pôle ressources.
Voilà, pour ça, c'est important.
Important. L'idée vraiment, c'est de croiser les itinéraires de chacun, de croiser les aventures humaines, de créer du nous, je l'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'est de décloisonner, parce que quand on a créé itinéraire singulier,
oui,
très 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 rapidement, on se dit mais où vous situez dans le soin, dans la culture, dans la réinsertion sociale. Et je dis mais on est d'une société très très cartésienne à la nôtre et on veut absolument rentrer dans les cases. Et je dis je rappelle quand même que le mot culture vient du latin cultura, qui veut dire développer l'humain. Donc, et c'est Artaud qui disait « L'art a pour devoir social de donner une issue aux angoisses de notre société ». Je trouve ça assez joli.
Quoi. Ça, c'est très beau, oui. Et combien important ce qu'il
et
dit
combien,
là.
Et combien importante. Et puis, j'ai un ami prêtre. Je vous parle de ça parce que le prêtre exorciste, ça existe encore, hein, sur Besançon, qui reçoit beaucoup de gens qui sont en grande difficulté psychique, comme ça, qui parlent beaucoup. Et il leur dit une chose importante, et il me disait une chose importante, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Quoi. Et notre société, tous les mots que l'on a, c'est parce qu'on n'a pas d'espace d'expression, parce qu'on ne remet plus la personne aujourd'hui en situation d'expression.
Oui, complètement.
Et replacer la personne en situation d'expression, c'est la base.
Complètement, alors, ça c'est fondamental.
Alors, c'est pas simplement dans une expression artistique, mais je vois par exemple sur l'itinéraire, on a à peu près 50 bénévoles de personnes
ce qui est très important déjà.
Bien sûr, qui tiennent les entrées de spectacle, qui tiennent les entrées d'expo, qui sont affectés à la communication. Et des gens qui sont donc suivis aussi dans les CHRS, qui sont suivis en hôpital psy, qui sont suivis dans des foyers et qui nous accompagnent sur ce projet-là. Donc c'est remettre la personne en situation d'expression, être acteur, c'est être aussi des actions de bénévolat.
C'est à plein d'endroits en réalité.
À plein d'endroits.
Ouais.
Et encore une fois, c'est aussi les ouvrir sur ce nous. Parce que
tout à fait.
Le nous nous ouvre à une proximité, c'est-à-dire je ne suis pas seul. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans les mouvements de contestation actuels. Hein, les gens ont besoin de se rassembler.
Hein, tout à fait.
Et c'est un élément de sécurisation, le nous. Et je crois que dans cet élément de sécurisation que l'on forge, c'est dans cet élément de sécurisation, j'ai envie de dire, que l'on forge aujourd'hui, je trouve pas le mot, un véritable, je veux dire, incubateur d'identité. Voilà. Le nous ouvre à la proximité. C'est une réalité vitale et un plaisir qu'on doit partager avec l'autre, forcément, autour d'un projet social, culturel ou autre. Et donc, je veux dire, la proximité, c'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale.
C'est une nécessité vitale.
Hein? Alors, bien sûr, le nous aussi imprime, et ça, je trouve ça super important. Je le dis tout le temps, c'est un élément de solidité, mais assez, surtout de solidarité. Et le mot solidaire, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Alors,
tout à fait. Même un peu galvaudé.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que l'étymologie du mot solidarité, je crois, révèle une racine indo-européenne qui n'exprime rien moins que l'intégrité. Donc être solidaire, ce n'est pas se dépouiller ou s'appauvrir, parce qu'on a du cœur, c'est être entier. Et donc la solidarité, donc l'art d'être d'être soi-même, j'ai envie de dire, en réalisant sa propre unité,
sa propre unité
et sa propre intégrité par le don, le partage, l'échange. Mais c'est aussi l'empathie.
Tout à fait.
Je dis toujours, ne pas confondre avec la sympathie. Hein. L'empathie, c'est la faculté de s'identifier à quelqu'un, de sentir ce qu'il ressent, de comprendre l'autre, d'appréhender ses sentiments, ses émotions, etc. Voilà. Et puis, la dernière chose, quand même, c'est que c'est un élément qu'il y a aussi à prendre en considération dans le « nous ». Le « nous », je dis toujours, c'est un peu comme les égo-éléments, à dose trop élevée, ça devient toxique.
Toxique aussi.
Alors, le « nous » aussi peut entraîner la conflictualité, c'est-à-dire aussi la rencontre. Il génère l'atmosphère de la rencontre. Rencontre, bien sûr, avec parfois une altérité, j'ai envie de dire, qui est un peu rugueuse, douce parfois aussi. Mais toujours un peu rugueuse, pourquoi elle est rugueuse ? Parce qu'elle est fondamentalement autre que mienne, et pourtant si semblable. Je veux dire, voilà. Et c'est cette conflictualité, je veux dire, élémentaire qui est bien présente dans les gens que l'on suit ou que l'on accompagne. Donc qui est bien présente, mais qui ne doit pas être traumatisante, qui est la base de toute démocratie. Elle ouvre, je veux dire, l'espace. Elle effectue la distinction du moi avec autrui, elle peut convoquer parfois l'inquiétude, mais aussi beaucoup la confiance. Et moi, je développe de plus en plus ça, et on doit développer ça nous aussi au sein de notre association.
Bien sûr, ça me paraît extrêmement important.
Nos partenaires, avec les bénévoles.
C'est à tous les échelons, finalement.
À tous les échelons, tout le monde... Et doit être inscrit dans cette responsabilité-là. Voilà. Et la responsabilité, pour moi, elle doit être pensée à partir de la relation à autrui. Quoi. Voilà.
Et là, ça me paraît effectivement quelque chose d'important. On va arriver, Alain, au terme de notre échange, mais ce qu'on peut très bien dire, et je pense que nos auditeurs, avec le témoignage tout à l'heure et le dialogue aussi avec Anne-Marie, la cohérence justement de vos deux témoignages, c'est de se dire qu'on te retrouvera aussi justement dans une de nos prochaines émissions, peut-être après.
Avec plaisir. Et je peux donner une jolie phrase de la fin.
Bien sûr, dis-moi.
C'est une phrase d'Emmanuel Lévinas, philosophe bien connu. Et je retrouve le truc, je vais noter ça tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Il dit « J'entends la responsabilité comme responsabilité pour autrui, donc comme responsabilité pour ce qui n'est pas mon fait, ou même ne me regarde pas, ou qui précisément me regarde, c'est-à-dire qui est absorbé par moi comme visage. » C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un « ça ne me regarde pas », à partir du moment où la personne vous regarde, ça vous regarde.
Ça vous regarde.
Et donc le visage d'autrui dans son extrême pauvreté, vulnérabilité et fragilité oblige à lui répondre, et finalement à répondre de lui.
C'est superbe ça. Merci de nous avoir livré cette réflexion aussi philosophique, mais c'est bien aussi. Résonance veut être là aussi pour nourrir la pensée et que chacun chemine aussi avec tous ces éléments en lui-même, mais aussi pour constituer ce nous dont tu nous as si bien parlé au cours de ce moment. Merci beaucoup,
merci
Alain.
Merci Alain aussi, et puis bonne continuation.
À très bientôt en tout cas.
À très bientôt.
Au revoir. Au revoir. Nous arrivons au terme donc de cette émission. Celle-ci sera rediffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, pour écouter Radio Tropique en direct ou en différé, podcaster et connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre sur www.tropiquefm.org. Et puis, bien sûr, nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité. Portez-vous bien et à bientôt.